Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
Au sommaire des enjeux internationaux, aujourd'hui, l'avion de combat européen.
Et oui, c'est le SCAF, le système de combat aérien du futur, qui a été annoncé lundi au Bourget. Une coopération annoncée par les trois ministres de la Défense allemande, espagnole et française. Et comme objet central, effectivement, un avion pour remplacer les Rafales français et Eurofighter britanniques d'ici 2040 et donc donner des ailes à cette défense européenne. Européenne autonome dont parlent beaucoup les dirigeants. Eh bien, on voit ça avec vous, Jean-Pierre Molny. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être au téléphone ce matin. Vous êtes directeur adjoint de l'IRIS, responsable des questions liées à l'industrie de l'armement et aux ventes d'armes. Alors, cet avion qui a été annoncé, sa maquette dévoilée au Bourget où vous étiez, Jean-Pierre Molny, il devrait être opérationnel d'ici 2040 avec un démonstrateur d'ici 2026. Qu'est-ce que vous retenez d'abord, c'est-à-dire la première coopération européenne dans le domaine ou le fait que c'est un programme qui arrive peut-être un peu en retard sur le F-35 américain ?
On ne peut pas dire qu'il arrive en retard par rapport au F-35 américain, parce que la problématique du SCAF, c'est surtout le remplacement des Eurofighters et des Rafales, et c'est maintenant qu'il faut lancer le processus de renouvellement de ces avions. Donc la grande nouveauté, c'est qu'il y a 35 ans, on avait fait tout seul avec le Rafale, et qu'aujourd'hui, on veut faire notamment avec les Allemands, et puis aussi avec les Espagnols qui ont rejoint ce projet.
Et alors, c'est ce qu'a souligné Florence Parly. À trois pays, donc puisque c'était un projet qui a été initié en 2017 entre la France et l'Allemagne, désormais avec l'Espagne qui vient de signer, Florence Parly dit une dimension résolument européenne. Trois pays, ça vous paraît suffisant, disons ?
En fait, c'est suffisant pour le moment. C'est-à-dire que c'est une coopération qui va être très compliquée parce que ce n'est pas uniquement un avion de combat, c'est véritablement une architecture de systèmes aériens qui seront connectés les uns avec les autres. Donc tout ça est très compliqué à mettre en place et donc il est préférable de peut-être de commencer avec trois pays et peut-être qu'ultérieurement d'autres pays se joindront à ce projet.
Alors qu'on en vienne justement à la nouveauté qui est annoncée avec ce SCAF, système de combat aérien du futur, donc l'avion au centre, mais au centre d'un ensemble d'autres appareils comme des drones, des missiles de croisière, des drones en essaim. Est-ce que c'est vraiment très nouveau dans le système de la défense aérienne, ce système, et comment ça va fonctionner ?
Effectivement, c'est quand même complètement nouveau parce que jusqu'à maintenant, on peut dire que les avions communiquaient entre eux. C'est ce qu'on appelle l'interopérabilité au niveau aérien avec ce qu'on appelle la liaison 16. Mais là, maintenant, c'est véritablement des données qui pourront être transférées entre des avions, des satellites, des avions de reconnaissance, des drones de reconnaissance, des avions sans pilote qui seront commandés. Donc effectivement, c'est toute une connexion d'un système aérien de combat qui se mettra en place d'ici les années 2040, parce que ça va pas non plus se faire du jour au lendemain.
Ouais, c'est ce que le PDG d'Airbus Defence and Space avait appelé un système de système. Est-ce que là-dedans, encore un point technique mais important, ça va pas redéfinir le rôle du pilote, ou est-ce que, disons, avec tous ces systèmes et toutes ces connexions, il y aura pas plusieurs opérateurs pour un seul appareil ?
Mais effectivement, c'est une question qui se pose sur l'architecture du système. C'est-à-dire, quel sera exactement le rôle du pilote ? Est-ce qu'il commandera d'autres systèmes ? Est-ce que le commandement sera déporté dans d'autres systèmes ? Ça peut très bien être des avions de transport. Donc, toutes ces questions sont sur la table aujourd'hui, sachant qu'un pilote, dans un avion, il ne peut pas tout faire. Et que ces dernières années, on a bien vu d'ailleurs qu'il y avait un risque avec l'inflation des rôles dévolus aux pilotes dans un avion de combat.
Les dernières choses concernant l'avion lui-même, donc je crois qu'il y a 150 millions qui ont été prévus sur 2 ans pour la mise en place et la conception de cet avion. La maquette fait 18 mètres de long, 14 mètres d'envergure. En fait, c'est les dimensions presque exactes du F-22 américain cette fois-ci. Pourquoi cette similarité ?
Oh, pour l'instant, ce qu'on a vu, c'est une maquette. Tout ça va naturellement être affiné dans les mois et dans les années qui viennent. Là, ce qu'on attend d'ici la fin de l'année, c'est la signature d'un contrat pour fabriquer un démonstrateur, hein, vous l'avez dit, et qui devrait voler en 2025 ou 2026, démonstrateur qui lui-même préfigurera l'avion de combat en lui-même, dont le développement et la production commenceront dans les années 2030.
Mmh. Et alors, sur le calendrier, ça vous semble faisable? Sur la faisabilité industrielle elle-même, il y a eu un plaidoyer particulièrement appuyé à plusieurs reprises de la France. Est-ce que ça vous semble possible jusqu'ici de développer cet avion? Et est-ce que c'est pas précisément un des enjeux que de pouvoir arriver à le développer à très peu de pays finalement?
Je pense qu'on a les capacités avec la France, l'Allemagne et l'Espagne de développer cet avion. Peut-être qu'il faudra d'autres pays dans les années qui viennent, ne serait-ce que parce que financièrement, on n'aura certainement pas les moyens de développer deux avions de combat comme on l'a fait dans les années 80.
Parce que vous avez chiffré vous-même là dans un article le coût, je crois que c'est 80-100 milliards, c'est ça?
Alors, c'est une estimation, mais effectivement, on peut penser que l'avion avec l'architecture système, ça peut être cet ordre d'idée. Donc, il est évident qu'un seul pays ne peut pas développer un tel avion. Il faut être à plusieurs pour le faire. On a aussi la question, tout simplement, vous l'avez dit, la construction d'une Europe de la défense. Et il serait quand même mieux que les Européens aient un seul avion de combat. Maintenant, encore une fois, c'est un système et il y aura d'autres systèmes qui se coupleront à cet avion de combat.
Bon, et justement, pour ce qui concerne les avions de combat, le problème, c'est que lors des derniers développements des avions, on va dire, de quatrième génération, l'Europe s'est retrouvée avec une concurrence importante du Rafale, du Gripen suédois et de l'Eurofighter, on va dire, britannique. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de pays européens, je crois, 5 pour l'instant, qui ont prévu d'acheter le F-35 américain. Pour l'instant, 3 seulement qui vont développer cet avion du futur européen. Quelle chance il a finalement d'être pris en Europe, cet avion?
Le F-35, c'est pas exactement le même avion que ce futur avion de combat. D'abord, le F-35 est plutôt un avion d'attaque au sol et il entre en service maintenant. Donc, il faut bien voir, ce nouvel avion entrera en service en 2040. Donc, c'est déjà une nouvelle génération après le F-35. Un des problèmes que pose le F-35 aujourd'hui, c'est d'une part qu'il est extrêmement cher et que donc il ponctionne les budgets de défense d'un certain nombre de pays européens, enfin de ceux qui l'ont acheté. Ça, c'est le premier point. Et puis, deuxièmement, le F-35 est un avion fermé, parce que lui aussi, c'est un système, mais c'est un système fermé. Et pour l'instant, il oblige un petit peu, c'est, je pense, aussi un peu le calcul des Américains, il oblige à acheter du F-35 pour être connecté avec le F-35. On sait que le combat dans les années futures, si malheureusement il y a une crise très grave, ce sera un combat collaboratif où tous les avions devront communiquer les uns avec les autres.
Sachant qu'il y a aussi un projet britannique de nouvel avion, alors attaque au sol ou chasseur, je ne sais pas, mais c'est le Tempest. Est-ce que là va pas y avoir un hiatus ou une concurrence frontale aussi?
Effectivement, le Tempest a été annoncé l'année dernière. Il y a peut-être certains pays qui pourraient rejoindre les Britanniques.
Il y a l'Italien, Léonard.
On parle des Italiens et des Suédois. Bon, pour le moment, on est dans des phases de développement et même de recherche sur ces avions. On n'est pas encore en phase d'industrialisation. Donc, s'il y a deux projets concurrents, c'est pas dramatique. Pour le moment. Mais en revanche, il est certain que ça serait quand même assez dommageable si deux projets perduraient dans le temps en étant concurrents.
Bon, et dernière chose, je le disais, relativement à une Europe de la défense, c'est un projet parmi d'autres, hein, comme un char européen par exemple, ou un avion maritime développé ou annoncé entre la France et l'Allemagne. Est-ce que le plus grand risque, c'est pas l'aléa politique précisément du côté allemand, puisque Angela Merkel risque de sauter, que la coalition n'est pas forcément en meilleure situation en ce moment, et que c'est Angela Merkel qui a beaucoup plaidé pour cet avion aussi?
C'est vrai qu'on a toujours les aléas politiques avec ces coopérations. Maintenant, il y a quand même une raison très forte qui doit dépasser ces aléas politiques. C'est que les États européens eux-mêmes n'ont plus les moyens de se défendre sur une base nationale et qui doivent absolument coopérer. Sinon, chacun s'affaiblira et la sécurité des citoyens ne sera pas assurée. Donc, il y a une nécessité extrêmement forte, un impératif à coopérer, et je pense que ça dépasse le fait que Angela Merkel soit chancelière ou pas chancelière, et ça dépasse le pouvoir actuel d'Angela Merkel.
Bon, mais donc la nécessité stratégique et puis la coopération industrielle déjà lancée. On verra les financements cet été et puis à l'automne éventuellement. Merci beaucoup pour vos explications ce matin, Jean-Pierre Molny. Je le rappelle, vous êtes directeur adjoint de l'IRIS. Merci, bonne journée.